Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon pour la 60e de Bonjour Turbine. Petit événement puisque nous sommes en direct de la cité de Chantier et de son nouveau studio Flambant Neuf. C'est dans ce lieu que nous vous invitons avec Alain et toute l'équipe à enfiler vos shorts et vos tennis. Nous vous emmenons à la découverte de sports méconnus dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et oui, ce soir, nous accueillons Adrien et Elodie pour nous parler de Corfball et Pascal Agbar nous révélera toutes les subtilités du Sistema. Pour cela, notre formation sera composée à la technique de Magic Marion et aussi donc de Florian, mais et Alain du coup sera à mes côtés pour assurer cette 60e. J'allais aussi oublier que nous aurons le retour de nos fameuses CPV, c'est-à-dire les capsules pédagogiques et véridiques, et un petit quiz en fin d'émission, histoire de faire un petit clin d'œil à l'AFKEN et de saluer le reste de notre équipe, Roxane, Lise, Thaïs, Thomas et Raphaël. Alors le sport dans notre société est omniprésent, la pratique d'un sport ou d'une activité physique est souvent recommandée pour notre santé, en compétition ou en loisir, dans un club ou non, on trouve un large panel de sports adaptés à son âge, à ses attentes, mais êtes-vous sûr de connaître toutes les possibilités qui s'offrent à vous? Ce soir, nous avons choisi de nous concentrer sur les pratiques méconnues, les sports émergents, les sports d'ici ou d'ailleurs, récents ou non. Vous en connaissez peut-être. Pour préparer cette émission, nous avons pu découvrir des sports ou des pratiques originales, spectaculaires, folkloriques. L'homme a visiblement beaucoup d'imagination pour se divertir. Alors voyageons un peu. Première destination, le Canada, avec le Kinball. Quel autre pays que le Canada aurait pu inventer ce sport dont les valeurs reposent sur le fair play et la coopération ? Les règles du Kinball ont d'ailleurs été imaginées dans ce sens, le respect de l'arbitre, de l'équipe adverse, conjugué à un bon esprit d'équipe, font de ce sport l'un des plus honorables. Les points de fair play et une attitude irréprochable pendant le match permettent aux équipes de prendre une avance conséquente et non négligeable sur les adversaires. Mais ne vous attendez pas à une activité gentillette. Remporter un match de Kinball demande de l'entraînement et d'excellentes performances physiques. Ce sport se joue avec une immense balle d'1,22 m de diamètre faite en caoutchouc et pesant 1 kg. Sur le terrain, on compte 3 équipes de 4 joueurs. Pour compléter ce tour d'horizon, parlons du disc golf, ce nouveau sport suit les mêmes règles que le golf traditionnel, mis à part que la balle est remplacée par un disque ressemblant à un frisbee, en un peu plus petit et plus lourd. Aussi, les trous sont remplacés par des paniers de disques de golf où les disques peuvent être lancés. Il s'agit d'un sport en forte croissance et vous allez sans doute en entendre parler davantage dans les années à venir. Alors là, je vais avoir un petit problème de prononciation. Le Sepak Takraw, très populaire en Asie, ce sport ressemble au volleyball. La différence majeure entre les deux sports est que les bras et les mains sont totalement interdits. Ainsi, il faut utiliser les pieds, la tête, les genoux pour faire les échanges. Ce sport est en devenir car il est à la fois acrobatique et spectaculaire. Alain, quant à lui, évoquera lors de sa chronique d'autres sports, comme par exemple le hockey subaquatique, le rugby sous-marin ou le kiditch, et encore d'autres plus ou moins farfelus. Ici, nous avons choisi de mettre en lumière le corfball, un sport collectif mixte qui nous vient des Pays-Bas, et le Sistema, qui est un art martial de Russie. Nous avons la chance d'avoir en plateau des pratiquants de chacune de ces disciplines grâce à le nous allons pouvoir découvrir plus en détail ces activités sportives. Sans plus tarder, je passe la balle à Alain pour un tour d'horizon de ces sports peu ou mal connus.
Petit problème technique, nous arrivons. Le mot de passe. Voilà, c'est parti. Pour ma part, je me suis penché sur quelques nouveaux sports un peu perchés. Et fatch de couillon, il y a des sacrés fadas. La pétanque avec des moufles. Le week-end dernier, Caen accueillait Place Bouchard, en centre-ville, le championnat du monde de pétanque avec des moufles. Pareil que la pétanque, mais avec des moufles ou des maniques de cuisine. Pas de gants. Nul doute que l'abus de pastis ou de rosé... quelque peu perturbant pour le cerveau. Cette compétition non officielle organisée par les vitrines de Caen tente à prouver que l'humour à la mode de Caen se porte bien. Alors maintenant, je vais vous parler du Quidditch. Si vous avez jamais vu un match de Quidditch en dehors de ceux de Harry Potter, ça vaut le déplacement. Votre rêve a été réalisé. Vous pouvez maintenant jouer au fameux jeu provenant de l'univers d'Harry Potter. Le Quidditch est très semblable à celui du film, excepté que les balais volants, malheureusement, il n'y en a pas. Il faut terminer la partie en ayant plus de points que l'équipe adverse. Des points sont attribués lorsque vous faites passer le soifle, une grosse balle, dans un des anneaux adverses, vous marquez 10 points, ou quand l'attrapeur réussit à subtiliser la petite balle au coureur ennemi, 30 points, et met automatiquement fin à la partie. C'est un sport réservé aux moldus, donc ceux qui ne sont pas des magiciens. C'est très physique, c'est un mélange de rugby, de hand, et courir avec un manche à balai entre les jambes, je vous laisse imaginer. Ceci dit, c'est un sport qui est complètement mixte, donc ça a quand même un intérêt. Et pour les passionnés d'Harry Potter, c'est un peu se faire plaisir. Je vais vous parler aussi du chess boxing. Alors quand j'ai vu ça, je me suis éclaté, parce que j'ai vu sur YouTube. Cette discipline a été imaginée en 1992 par Enki Bilal, le dessinateur de BD. Ce sport étrange mélange les échecs et la boxe anglaise. Jouer aux échecs avec des gants de boxe, c'est pas mal. L'affrontement se déroule en 11 reprises. Les adversaires alternent des séquences de 4 minutes autour d'un échiquier et des rounds de 3 minutes de boxe. Un match peut se finir par KO ou par échec et mat. Je suis fan d'Enki Bilal en BD. En sport, moins. Maintenant, on va rentrer dans un monde... étrange, si j'avais la musique pour le moins étrange. Alors, je vais commencer par le rugby subaquatique. Ouais, vous ne rêvez pas. Le hockey subaquatique, le rugby. Il y a aussi le rugby dans l'eau, mais comme son nom l'indique, il s'agit d'une forme de hockey qui se pratique par équipe de 6 au fond d'une piscine. Les joueurs sont équipés de tubas, de palmes et d'une crosse d'une trentaine de centimètres. Ils doivent marquer plus de buts que leur adversaire au cours de demi-temps de 15 minutes. Alors, encore plus perché, ce n'est pas le hockey sur glace, ce n'est pas le hockey subaquatique, c'est le hockey sous glace. Imaginez, encore plus fort que le hockey, il se pratique dans un lac gelé par des équipes de 2 joueurs. Le palais flotte, il se colle donc à la glace. Vous êtes en dessous, ça doit être flippant. Les participants nagent en apnée sur le dos et doivent marquer des buts à leurs adversaires. Ils alternent des plongées d'une trentaine de secondes avant de retrouver le trou dans la glace pour reprendre leur souffle. Les phoques retrouvent facilement les trous. Est-ce que les hommes les retrouvent? C'est à voir. Alors, on continue dans les délires. Le swamp football, ou le football des marais. Il s'agit d'une variante du football, probablement d'origine finlandaise. Il n'y a pas que Per Gynt en Finlande. Ce sport se joue dans la boue. Les règles sont très similaires. La seule différence à noter sont l'absence de hors-jeu, un terrain plus petit et des matchs de 26 minutes. Et je ne vous raconte pas après une bonne machine à laver et une bonne douche pour la boue. On continue. Le lancer de tronc. Cette discipline se déroule pendant les Highland Games, un événement traditionnel écossais, comme son nom l'indique. Il s'agit de lancer un tronc, mais pas n'importe quel tronc, de plus de 4 mètres de long. Contrairement aux idées reçues, le but n'est pas de le lancer le plus loin, mais que le tronc fasse un demi-tour, le plus précis possible. Dans un lancer parfait, l'extrémité qui était au sommet du tronc touche le sol sous un angle de 90 degrés. Donc on le met à la verticale. Et oui, les Écossais sont étonnants. Le whisky y est peut-être pour quelque chose. Le wife carrying ou Ekon Kanto. Cette discipline a pris naissance en Finlande. Ils sont perchés, les Finlandais, oui, ils sont au nord. Et est réalisée en équipe de 2. Chaque équipe doit être composée d'un homme et d'une femme et consiste en un parcours d'obstacles qui doit être effectué dans le meilleur temps possible. La difficulté majeure est que l'homme doit porter la femme tout le long du parcours sans qu'elle ne tombe. Alors, intérêt à choisir une partenaire qui soit d'un poids qu'on puisse tenir. Le cheese rolling. Ayant commencé en Angleterre, cette tradition fait beaucoup d'adeptes. Ce sport insolite est une course qui se déroule dans une colline et où l'on doit courir après un fromage rond de 4,1 kg. Le but est d'attraper le fromage, mais comme celui-ci peut atteindre des vitesses d'environ 110 km/h, le but le plus réaliste est d'être la personne arrivant en bas de la colline en premier. Par contre, ce sport cause beaucoup de blessures, alors il faut s'exercer avec des précautions. Qui a dit que les Anglais étaient des gens pour le moins particuliers ? Et on arrive presque à la fin, le slam ball. Cette activité est un mélange plus qu'intéressant entre le populaire basketball et l'utilisation de trampolines. Le but est de marquer des points en faisant des paniers et de terminer avec le plus de points que l'équipe adverse à la fin de la partie. Ça, c'est toujours comme ça. Il y a 8 trampolines réparties sur le terrain en 2 blocs de 4, entourant chacun des paniers. Ainsi, pour marquer des points, il faut courir et sauter tout en regardant ses arrières, car les collisions sont acceptées. Et je vais terminer... Non, je ne termine pas, j'en ai encore deux. Le lancer de menhir, on est en Bretagne. Tous les premiers jeudis du mois d'août se déroule le championnat du monde de lancer de menhir à Guerlesquin, dans le Finistère. Le concours fait partie de la fête du village des Irréductibles, on imagine. Avant le départ, les participants prennent des forces et mangent du sanglier et surtout boivent de la potion magique du druide Jaco Manix. Tout le monde peut participer car il existe des catégories d'âge différentes. Idée fixe pour les enfants, menhir de 10 kg. Astérix pour les moins de 20 ans, menhir de 20 kg. Falbala pour les dames, 15 kg. Et Obélix pour les messieurs, avec un menhir de 25 kg. Et enfin, la course de chaises de bureau. Cette course, pour le moins originale, se déroule dans la ville de Bad Königsel, en Allemagne. Il s'agit de dévaler une piste de 200 mètres de long, assis sur un siège de bureau. Les participants sont bien sûr équipés de casques et d'autres protections pour éviter les chutes trop douloureuses. C'est aussi l'occasion de rivaliser d'imagination pour confectionner les chaises les plus originales du design. Nous, on a les caisses à savon. Si vous voulez tester, c'est faisable, mais prenez une bonne assurance. Alors juste, me suis posé la question, mais pourquoi on va chercher des trucs aussi perchés ? Et je me suis rendu compte que c'est Internet ou YouTube se faire voir. Et plus on va faire les choses les plus extraordinaires, plus on va avoir de followers, de vues. Et donc, Internet, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients.
Merci Alain, poursuivons notre marathon sportif. Alors moi, pour préparer cette émission, je me suis rendu au gymnase Michel Hidalgo pour assister au match de corfball entre les loutres et les salamandres. Ah oui, il faut que je vous précise, les loutres, c'est le nom de l'équipe de Caen. Quant aux salamandres, c'est une équipe proche d'Amiens, d'après ce que j'ai compris. Alors, force est de constater que lors de cette rencontre, les loutres ont dévoré les salamandres, score final 20-4. Mais au-delà du résultat, j'ai beaucoup aimé le fair play des équipes et l'ambiance générale. Alors, pour parler de corfball, quoi de mieux que de demander à deux pratiquants ? Cela tombe bien, Élodie et Adrien du club de Caen sont avec nous en plateau. Bonsoir Élodie et Adrien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes tous les deux joueurs de l'équipe de Caen, la SPT Caen, je crois.
C'est ça.
Les loutres. Alors, pour débuter, tout simplement, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le corfball ?
Vas-y Adrien.
Alors, le corfball, donc, c'est un sport qui remonte... aux années 1900, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un sport avant tout hollandais et c'est un sport collectif, mixte, c'est la principale caractéristique de ce sport. Et donc il se joue sur un terrain de handball, en grosso modo, de 40 sur 20 mètres de long, 20 mètres de large, pardon. Et ce terrain de hand est séparé en deux zones, une zone d'attaque et une zone de défense. Et sur chacune des deux zones, il va y avoir donc deux équipes qui vont s'affronter. Chaque équipe est constituée de 8 joueurs, 4 garçons, 4 filles. Et sur chaque zone, il va y avoir donc ce qu'on appelle des carrés, composés de 2 garçons et 2 filles obligatoirement dans chaque carré, donc dans chaque zone. Ensuite, l'objectif, donc, c'est un petit peu comme le basketball. Il y a deux paniers qui ne sont pas situés aux extrémités du terrain, mais un petit peu dans le terrain, ce qui va permettre aux joueurs de tourner tout autour du panier, car en plus, il n'y a pas de planche derrière l'anneau. Et donc, le korfbal, en hollandais, korf signifie panier, d'où le nom. Et donc, lorsqu'une équipe est en phase offensive, donc, elle va chercher à marquer donc son panier. Face à des défenseurs, ces défenseurs, s'ils récupèrent le ballon, ils doivent passer le ballon de l'autre côté de la zone dans la zone d'attaque de leur équipe.
L'autre côté du terrain.
Voilà, merci. Elodie a cet esprit de synthèse qui va m'aider et nous aider ce soir à comprendre ce sport.
C'est ça la force de la mixité.
Et ben justement, alors j'ai vu aussi que dans les règles, que sur la défense, une fille doit défendre sur une fille.
Oui, tout à fait. C'est ça la particularité de ce sport, en fait, c'est que donc c'est mixte, mais effectivement, en fait, quand vous avez le ballon, contrairement au basket, par exemple, vous pouvez pas avancer avec le ballon ni dribbler. Donc en fait, vous êtes forcément bloqué, vous devez faire une passe. Et donc la personne qui est devant vous, qui, si vous voulez marquer et que vous avez un défenseur devant vous, vous ne pourrez pas dans ces cas-là marquer, il devrait passer. Et cette défense, c'est uniquement, si vous êtes une fille, c'est une fille. Et pour les garçons, c'est la même chose, un garçon face à un garçon.
Par contre, sur les phases de transition, ça pose problème quand ça passe de la défense à l'attaque. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ?
Bah, en fait, ça va dépendre si c'est on rattrape la balle, mais qu'il y avait pas, on n'a pas empêché, par exemple, un garçon n'a pas empêché une fille de faire une action. Ça, il n'y a pas de souci s'il la rattrape juste en vol, par exemple. Par contre, si c'est quelque chose qui lui empêche de marquer, là, ça, c'est une faute.
Alors, j'ai assisté à un match que vous avez remporté avec brio, comme je le disais, mais au-delà du résultat, j'ai bien aimé le fair play. J'ai l'impression que c'est inhérent à ce sport. Qui me semble véhiculer de belles valeurs. Est-ce que vous pouvez me confirmer cet état d'esprit ?
Alors en effet, il y a toujours une très bonne ambiance lors des matchs. C'est peut-être dû au fait que ce sport est, on va le dire, on va l'avouer, il est très peu développé en France. Et donc nous jouons actuellement dans la troisième division française et il n'y a que quatre équipes. dont l'équipe des Salamandres, qui est une fusion entre le club de Beauvais et d'Amiens. Et cette équipe a trois équipes, ce club pardon, a trois équipes, une équipe 1, 2 et 3. Et nous jouons dans notre championnat contre l'équipe 2 et l'équipe 3. Donc finalement, on connaît assez bien les joueurs adverses et on est content de se retrouver en gros une fois par mois ou tous les deux mois pour des rencontres. Donc, comme c'est un sport aussi qu'on pratique en compétition depuis maintenant 3 ans, il me semble.
C'est depuis 2019.
Voilà, un peu plus donc. Et du coup, on rencontre toujours ces mêmes équipes. Donc, il y a en France, dans notre championnat Nord, il y a donc l'équipe d'Amiens Beauvais, qui est un club qui a fusionné, les Salamandres donc. Il y a l'équipe de Déol, qui est le club dans la banlieue de Châteauroux. Et auparavant, les années précédentes, il y avait également le club de Massy en région parisienne. Donc finalement, voilà, on est très peu d'équipes dans notre championnat et donc c'est pour ça qu'on se connaît tous. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une bonne ambiance entre nous. Et à chaque fois, à chaque fin de partie, ça se termine par un repas tous ensemble. Donc on discute aussi d'autres choses que du korf.
Alors au total, est-ce qu'il y a vous savez qu'à peu près combien de gens pratiquent ce sport en France ?
Alors en termes de nombre exact de joueurs, de licenciés, je ne sais pas. Je sais qu'il y a 13 clubs en France. Le sport en France, il s'est principalement développé dans les années 80, 1985 et 6, je crois. La toute première fois, un des tout premiers clubs qui s'est créé, c'est justement dans le Cher. Du fait d'un Hollandais qui est venu s'installer pour découvrir la douceur berrichonne. Et il s'est installé là, il a développé le korf. Le club de Déol, notamment, a énormément de licenciés. Et ensuite, l'année d'après, ça s'est plutôt développé dans la Loire. Et donc, il y a énormément de clubs dans ces départements-là.
Et est-ce qu'il y a des compétitions internationales ?
Alors, il y a des compétitions internationales. Je crois que la toute première, elle est en 78, je me trompe peut-être. Au niveau international, c'est plutôt l'équipe de Hollande qui est très performante. Elle a gagné tous les titres du championnat du monde ou championnat d'Europe, excepté une fois où la Belgique a remporté le championnat du monde, il me semble.
Les cousins. Voilà. C'est un sport assez méconnu. Comment vous êtes arrivé à ce sport ?
Alors, bah vas-y, je te laisse.
Alors moi, personnellement, en fait, quand je suis arrivée sur Caen, à la SPTT, ils ont mis en place une section multisport où justement la section de Korfball est venue nous faire découvrir. Donc on a découvert d'autres sports. J'ai eu aussi l'occasion de jouer au Quidditch. Et donc grâce, j'ai bien accroché à ce sport-là. Et donc après, j'ai appris qu'il y en avait une, justement, ce club à Caen, donc maintenant qui joue à Colombelles là, depuis 2022. Et donc bah, je les ai rejoints là, il y a 2 ans.
Et pour ma part, c'est vraiment du bouche à oreille. Hein. C'est une des membres presque fondatrices du club. Le club a été fondé en
2016.
2016, donc très rapidement. C'était en fait une collègue de travail. Beaucoup d'entre nous viennent du monde de l'éducation. Hein. Je suis moi-même enseignant. Et ce sport, donc développé par inventé dans les années 1900 par un Hollandais, était lui-même enseignant et cherchait à créer un sport mixte, collectif, pour faire jouer filles et garçons ensemble. Et du coup, cette collègue m'a incité à venir découvrir ce sport. Et pareil, j'ai bien accroché l'idée de pouvoir faire ce sport avec notre compagne, avec notre conjoint. C'était aussi sympa d'avoir une activité commune à deux. Donc voilà. Et donc depuis 5 ans maintenant, hein, je crois, je suis au club avec mes camarades.
C'est la mixité qui vous a incité à venir
Pour ma part, oui. Et puis j'aimais bien les sports co. Après, c'est un sport qui est relativement, je trouve, facile d'accès parce qu'il n'y a pas pour les déplacements, c'est que un jeu de passe et de démarcation. Donc du coup, il n'y a pas la contrainte du dribble qui peut parfois être un frein à l'accès à ce sport. Après, il faut être habile et agile parce que pour shooter et marquer un panier, il n'y a pas de planche, donc c'est un peu plus dur. Il faut faire ficelle comme au basket quasi tout le temps. Donc voilà, c'était ce côté-là qui était assez plaisant aussi.
Facile d'accès. Combien d'entraînements par semaine ?
Un. On s'entraîne tous les mercredis soirs.
D'accord. Et qu'est-ce que vous travaillez ? Qu'est-ce que ça vous fait travailler en particulier pendant les séances ? C'est l'habileté au tir ? C'est
Bon, on travaille un peu tout. Il y a du renforcement, hein, forcément, parce que le but, ce n'est pas que de courir. Donc, on travaille le renforcement. Et après, on essaye aussi de travailler justement les tactiques et puis de construire le jeu ensemble. Parce qu'en fait, la force de ce sport, c'est... En fait, on ne peut pas être individuel tout seul. On ne pourra jamais rien faire. Et c'est vrai que c'est de justement trouver les forces et les faiblesses de chacun et d'essayer de trouver des tactiques pour, en match, essayer de les mettre en place.
Du coup, il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi les loutres ?
Alors là, c'est une sombre histoire qui restera entre nous. J'ai moi-même pas trop compris pourquoi on est arrivé aux loutres. Et on a trouvé que c'était assez original, donc on a poursuivi là-dessus.
Et au final, ça nous représente bien, parce que bon, c'est tout mignon quand on les voit, mais une fois que c'est sur le terrain. On lâche rien.
Du coup, le temps passe très très vite, alors... Je vais vous poser deux, trois petites questions en guise de conclusion. Quels sont les objectifs du club ? Comment on peut faire pour rejoindre le club ? Et puis, est-ce qu'il existe des sections, des équipes jeunes ?
Alors, pour le moment, nous sommes affiliés, comme nous l'avons dit, à la SPTT Caen. Et depuis maintenant un an, nous avons un partenariat avec la ville de Colombelles. Notre but était donc, en nous installant à Colombelles, de développer ce sport, puisque dans une petite commune, on espérait pouvoir toucher davantage de licenciés, d'adhérents potentiels. Donc grâce à cela, on a eu de nouvelles arrivées au club. Maintenant, on est, il me semble, 13 licenciés. Sachant que l'équipe c'est 8, donc ça va, mais on est un peu serré parfois. Donc le but, c'est notre objectif avant tout, c'est de continuer à se développer, à se faire connaître. Alors on participe pour cela à différentes rencontres, on essaie aussi de le développer au sein des écoles, de par nos métiers, mais ça reste un peu compliqué. Donc on a un compte Facebook aussi, on essaye par les réseaux sociaux de se faire connaître, par la presse, par vous. Donc on vous remercie, hein, de nous inviter aujourd'hui pour présenter et parler de ce sport. Il n'y a pas de section enfant, hein, mais voilà, de par nos métiers, de par nos valeurs, on cherche dans l'avenir à développer une section enfant, mais pour le moment, on en est encore, on l'avoue, un peu loin, mais c'est dans les tuyaux, on y réfléchit.
Et pour venir nous rejoindre, il suffit de venir le mercredi au stade Hidalgo et de venir voir comment ça fonctionne.
Les entraînements commencent à 20h.
Eh bien, merci à vous deux. Et nous passons à la première coupure musicale,
oui,
Alain.
Les chariots de feu de Vangelis, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était un musicien grec et qui, pour les anciens, a chanté et joué dans les Aphrodite Child.
Eh bien, de retour sur Station B, nous savons que vous les attendiez tous, elles sont de retour, les fameuses capsules pédagogiques et véridiques. Voici la première avec Alain.
Alors, on va vous parler d'un des sports peut-être les plus ridicules, le Goanna Pooling. Imaginez un peu deux colosses australiens, ou pas australiens, mais là, c'est en Australie, à plat ventre, le buste relevé, adoptant une posture de lézard, ou plus précisément du varan australien, traduction littérale de gonard en anglais. Avant de lancer le coup d'envoi, l'arbitre passe une ceinture de cuir autour du cou des deux participants. Leurs mains sont ancrées dans le sol, sur une ligne blanche, qu'ils ne doivent pas dépasser sous aucun prétexte. Le but est simple, tirer le plus fort possible son adversaire avant qu'il franchisse cette ligne blanche, en s'aidant uniquement des muscles de son cou. Bon, après cette capsule, il est l'heure de passer à notre nouvelle invitée. Alors, jingle.
Bonsoir Pascal, ce soir tu vas nous parler de Systema. Et alors pour préparer cette émission, j'ai écouté un podcast sur France Culture qui se nomme L'expérience baston. Alors je vous lis ce que dit Tony Ayer, le réalisateur de cette émission, pour présenter le Systema. En Systema, on frappe, on rit aux éclats et on s'effondre en larmes perdues. On frappe un ventre, un visage, on est frappé. Au corps, aux intentions de l'autre, à ses propres intuitions, bouleverse et transforme les hommes et les femmes qui entrent en jour dans un cours de Systema. C'est un langage que l'on ne parle plus et qui pourtant se trouve en nous. Cette voix, c'est une voix immatérielle qui nous ouvre un jour les bras et qu'on peut emprunter. C'est un point qui nous réveille et nous rappelle au fondement du vivant. c'est cette violence ancrée et profonde qu'il faut prendre en compte si l'on décide de continuer à vivre. Alors, pour commencer, est-ce que tu es d'accord avec cette façon de présenter le système ?
Oui, David. Non, je ne connaissais pas ce texte. Il me semble très juste, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut vivre, ce que je peux vivre, ce qu'on peut vivre au club à Caen, système Abus de Caen, et dans les différents stages auxquels on participe en France. Je trouve ça très, très proche, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail avec le corps. On parle avec le corps, on parle avec des gens très différents, on vit tous ensemble. Donc c'est très, très proche, très juste.
Est-ce que tu peux nous préciser les règles du...
Oui, alors tout à fait. Alors on a dit art martial russe. Je crois qu'une des phrases les plus courtes et les plus justes que j'ai entendues pour décrire le système A, c'est que c'est comme du yoga avec des gens qui nous donnent des coups de pied autour. En fait, on a quatre principes de base qu'on essaie d'appliquer en permanence, donc qui sont la relaxation, la respiration, le mouvement et la structure. Donc, on essaye d'être bien structuré, de bien respirer, de bien bouger en permanence, quoi qu'il arrive. Et effectivement, les exercices qui sont proposés dans ces activités sont très proches de ce décrit dans le texte par David. Voilà, on se roule dessus, on se tape, on saute, on tombe, on fait des exercices à plusieurs. On travaille avec des gens des deux sexes, de tous les âges, de toutes les tailles, sans catégorie particulière. Et on peut travailler sur des tatamis, dans des parcs, sur des bancs, avec un peu tout et n'importe quoi. On n'a pas forcément d'uniforme, on utilise un peu les objets du quotidien aussi, ou les mains nues. C'est assez, assez ludique aussi, c'était un des points soulignés dans le texte. Il y a quelque chose d'assez, qui est assez proche aussi peut-être de la relaxation. Il y a quelque chose d'assez ludique dans l'approche, qui est très, voilà, proche de la relaxation. On évite d'être tendu, d'être stressé, on pratique de façon détendue comme on a envie de vivre en fait et envie de pratiquer. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions qui sortent et c'est souvent positif.
Vous avez des protections, des choses ?
Non.
Mains nues, pas de casque ?
Rien du tout. On essaye d'être le plus proche possible des conditions du quotidien. Donc plutôt que de se protéger d'événements imprévus en essayant de se renforcer, on essaye de les accepter et de voir comment on peut les vivre avec la protection de l'expérience du corps, en fait, avec le corps qui sait apprendre à gérer les risques, à gérer les coups, les chutes, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'images d'animaux qui sont prises. Je crois que c'est Mathilde qui avait une phrase sur un de ses livres qui demandait est-ce qu'on a déjà vu un tigre faire des pompes pour s'entraîner à être un tigre. On donne souvent l'image du panda qui roule en permanence, qui a l'air un peu mou, un peu gauche, peut-être un peu ivre et qui roule en boule, quoi qu'il arrive dans les chutes, il est à l'aise. C'est un peu ce genre de bien-être qu'on peut avoir en tête, ce genre d'aisance dans le mouvement et quoi qu'il arrive, si on tombe d'une table, on va avoir on essaye d'être aussi à l'aise que si on tombe en étant assis, d'être aussi décontracté, de ne pas se tendre dans la chute pour éviter de se blesser, justement. Donc c'est le corps qui apprend.
Excuse-moi, comment tu as connu ce sport ?
Alors, mon parcours, il a commencé il y a, je crois, 6 ans, à un salon du livre à Caen, où j'ai rencontré donc un auteur de BD d'Hérouville, Vincent Ginda, pour ne pas le nommer, qui pratiquait déjà à l'époque. Et après des longues discussions qui nous ont menés assez loin dans le temps, on en est arrivé à la conclusion que je devais absolument essayer cette activité avec lui. Et j'en suis arrivé à pratiquer avec d'autres personnes à Caen, puisqu'il y a un petit noyau à Caen qui a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années à peu près. Donc des gens qui avaient pratiqué d'autres arts martiaux avant et qui se sont lancés dans le système à une dizaine d'années et qui ont monté un club, puis deux à Caen. Il y a deux clubs maintenant à Caen. Voilà, une activité assez, assez riche qui reste pourtant confidentielle. Peu développé en France, mais bien active à Caen quand même. On a quelques pratiquants. Donc c'est le fruit, je dirais, des rencontres. Moi, je n'avais pas prévu de pratiquer les arts martiaux dans ma vie avant de rencontrer tout ce petit groupe-là, de personnes super intéressantes avec des vies, des pratiques, des qualités toutes différentes. Et voilà, je me suis régalé à pratiquer beaucoup avec plein de gens et à découvrir de plus en plus. Voilà, je continue à rencontrer plein de gens puisqu'on pratiquait.
Et tu disais n'importe. Qu'il y avait peu de pratiquants ailleurs, mais dans le monde, c'est un sport qui est pratiqué par beaucoup de gens ou...
C'est assez répandu. Le QG, le quartier général, il est à Toronto. Il y a des gens, bien sûr, en Russie, les grands pratiquants qui sont en Russie, bien sûr, à Moscou notamment. Je ne connais pas bien ce qui s'y passe. Après, il y a des pratiquants, oui, dans tous les pays. Tous les pays, des grands profs qu'on a rencontrés du Japon, il y a des grands professeurs aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud, dans des pays d'Europe, il y en a beaucoup. On travaille avec plusieurs profs, notamment des Pays-Bas. Là, les prochains stages qu'on fait, c'est un prof anglais qui vient ce week-end à Caen. Voilà, il y a des profs qui voyagent, qui font des stages un peu partout. Donc oui, c'est assez répandu un peu dans tous les pays.
Et est-ce qu'il y a des compétitions ?
Alors non, c'est un art martial qui n'a pas de... Voilà, on pratique pour soi, un peu comme le yoga. On n'a pas de... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de ceinture, d'uniforme. Voilà, il y a des instructeurs donc à qui, auprès desquels on peut se référer, qui peuvent nous guider, partager leur expérience. Et puis il y a tout le monde autour. On pratique tous ensemble.
Alors je sais que tu es un vrai passionné maintenant. Tu as fait beaucoup de chemin. Tu es toi-même président du club. Tu es devenu enseignant et pratiquant. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique ?
Tout ce dont on vient parler, forcément, c'est intéressant. Moi, au quotidien... je gagne en bien-être, tout simplement. Je pense que je vis mieux pour mon métier, pour ma vie au quotidien. Mon corps est en meilleur état, mon esprit est en meilleur état. Je suis moins stressé, je suis en forme. Et puis, dans la pratique, c'est toujours intéressant de se dire, ce soir, je vais me retrouver... ou à d'autres moments, ou ce week-end, je vais me retrouver à faire, je ne sais pas, des vagues ou donner des coups de chaîne avec une institutrice ou un pompier, je ne sais pas. C'est des activités qu'on n'a pas forcément prévu de faire, mais qui sont toujours surprenantes et pleines de bien-être. Il faut voir aussi les pratiques de massage aussi, on fait beaucoup de massages. Donc en se marchant dessus notamment, avec des fouets, avec des bâtons, des choses comme ça. Donc c'est toujours à développer ou à expliquer, c'est toujours un peu particulier, ça fait toujours un peu rire, mais à pratiquer, c'est effectivement à la fois surprenant et source de, je dirais, de bien-être, ou en tout cas de... Après, moi, c'est ma démarche, tout le monde peut venir pratiquer avec des attentes différentes. Je pratique avec des gens qui ont des bons niveaux dans d'autres arts martiaux, avec des gens qui font... dans les pratiquants, il y a beaucoup de gens qui viennent du cirque ou qui utilisent leur corps avec beaucoup de souplesse, beaucoup de force, de façon plus artistique, je dirais, pour résumer la situation. Il y a des gens qui sont là pour différentes raisons. On se retrouve tous ensemble à se marcher dessus ou à se taper.
Et concrètement, comment on pourrait décrire une séance ?
Alors, tout dépend prof. Oui, bien sûr. Mais on va essayer de... Forcément, comme une séance chez nous, elle fait à peu près une heure et demie. Enfin, elle fait une heure et demie, mais elle commence souvent par beaucoup d'activités. Enfin, moi, je suis très intéressé par les activités de respiration. Donc, on essaye de commencer par des activités qui permettent de se mettre à l'aise avec la respiration. Soit rouler, marcher, des activités avec beaucoup d'apnée éventuellement. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup, mais en tout cas avec de l'apnée. Après, des travaux qui permettent de s'échauffer de différentes façons. Et puis... si on veut travailler les roulades, le travail au sol, la lutte au sol, si on veut travailler différents exercices debout, de frappe, de s'échapper, de saisie, tout ce qui peut être participer d'un combat. Mais en fait, ça peut aussi être adapté aux gens qui sont dans le cours, voir ce qui leur manque. Une fois qu'on est prof, on sait, on a des programmes pendant une année ou pendant un cours pour donner ce qui peut manquer aux gens, leur apprendre à se relaxer, leur apprendre, puisque c'est souvent le gros du travail au début, apprendre à se détendre dans la plupart des situations. Et puis, on travaille assez lentement la plupart du temps. On travaille toujours très lentement. Et puis, à la fin, on peut éventuellement faire un travail plus libre, un travail plus rapide, plus libéré, tester des choses qui sont peut-être plus proches du combat pour ceux qui ont envie de faire ça ou plus proches d'autres choses pour ceux qui ont envie de tester d'autres choses. Et on termine en général par un cercle de parole où tout le monde se retrouve et donne son avis sur la séance, sur ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Ça prend quelques minutes, mais c'est une façon aussi de préparer les futures séances, de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a compris, pas compris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par les mots, qui passent par le vécu, par l'expérience du corps. On essaie de pas que ça passe pas forcément, que les émotions passent pas forcément par la tête, mais que ce soit le corps qui travaille de façon libre. Donc travailler avec des mots, c'est pas évident, mais ce cercle de parole à la fin, il permet de faire un bilan et de préparer la suite, et en tout cas que l'info circule entre nous et d'éviter de partir avec des tensions, des frustrations de sortir grandi et libéré.
Tu as un peu répondu à la question que je voulais te poser, c'est par rapport aux dispositions qu'on pouvait avoir pour le sport. Si on a envie de rejoindre ce sport, on se renseigne où, comment?
Alors nous, on a, si on aime tout ce qui est moderne, on a un site internet, une page Facebook, je crois que c'est tout, on ne doit pas avoir d'autres choses. C'est Budokan à Caen. Et on a des cours donnés le lundi, le mardi et le vendredi à la Folie Couvre-Chef, rue du Tibet, au Dojo, au-dessus du basket. C'est 19h30 tous les jours, sauf le mardi, c'est 18h. Donc on peut venir, il y a des cours, les premiers cours sont toujours gratuits, et puis on peut venir juste voir ce que ça donne. Un cours ne fait pas l'autre. On a actuellement, on est quatre à donner des cours sur ces créneaux-là, avec des participants différents et des attentes différentes à chaque fois. Donc oui, autant venir et puis participer pour voir ce que ça donne, puisqu'en fait on travaille débutant avec anciens. On tient compte de ce que chacun est capable de prendre et de donner.
Bah écoute, j'avais une question à te poser, mais tu viens d'y répondre, donc c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ce sport. Mais David, j'y pense, on a le temps d'une petite CPV, autrement dit une capsule pédagogique et véridique.
Ah oui, j'aime bien. Je vais vous raconter l'histoire de McDo qui perd de l'argent à cause des JO. En 1984, avant les JO de Los Angeles, McDonald's lance une opération marketing. La règle est simple. Quand un Américain remporte une médaille de bronze, un soda est offert. Pour l'argent, ce sont les frites. Et pour une médaille d'or, c'est le Big Mac. Mais l'entreprise de restauration rapide n'avait pas prévu le boycott de l'URSS. Les États-Unis ont largement dominé les JO avec 174 médailles, dont 83 en or. Un succès qui a fait perdre des millions de dollars à McDonald's. Voilà.
Quand le sport peut réjouir les gens, c'est très très bien. Alors, ça va être l'heure de notre deuxième pause musicale avec la chanson officielle du Mondial 2010 de football en Afrique du Sud. Et donc, Waka Waka, Shakira.
And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Mm-hmm. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
À présent, il est temps de retrouver notre coéquipière favorite, Floriane, pour sa chronique. Floriane, tu t'es demandé quel sport nous pourrions pratiquer à l'horizon 2050 ?
Et oui Alain, je vous ai entendu tout au long de cette émission explorer des sports méconnus et insoupçonnés et je me suis de mon côté demandé quel sport nous pourrions pratiquer dans les 10 à 30 prochaines années. Et si la réponse était aucun ou presque ? Eh bien oui, avez-vous déjà tenté de courir un marathon sous un thermomètre qui dépasse les 30 degrés ? Ou bien de discuter un match de tennis sous un nuage de fumée chargé de cendres et de particules nocives ? Ou encore de descendre une piste de ski sur un lit de roche, de pagayer sur une rivière à sec, de courir une régate sur des mers couvertes d'algues toxiques, ou même de pratiquer un sport de nature dans des paysages arides. Vous me voyez venir ? Eh bien oui, aussi, le sport se prend de plein fouet les effets du changement climatique. Et les exemples pullulent. 28 sur 68, c'est le nombre d'abandons recensés lors du marathon femmes des mondiaux d'athlétisme au Qatar en 2019. Au top départ, le thermomètre affichait 32 degrés ressenti 41 avec un taux d'humidité de 73%. Plus récemment, en janvier de cette année, le thermomètre a grimpé jusqu'à 37 degrés à Melbourne, entraînant la suspension de nombreux matchs de l'Open d'Australie de tennis. 2023 toujours, le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne a quant à lui été intégralement annulé, en cause des pluies diluviennes et inondations dans cette région du nord de l'Italie, ayant notamment coûté la vie à 8 personnes et forcé l'évacuation d'une dizaine de milliers d'autres. Fin juin 2023 encore, un peu moins d'une heure avant le départ, c'est l'Ironman du Mont-Tremblant au Québec qui a été annulé en raison de la mauvaise qualité de l'air due aux nombreux feux de forêt ravageant la région. Ce ne sont ici que quelques exemples, et si les lieux et calendriers de compétition peuvent toujours s'adapter, il n'y a pas que dans le sport de haut niveau que les effets se font et se feront sentir. En 2021, WWF France publiait un rapport mettant en évidence l'impact alarmant du dérèglement climatique sur la pratique sportive, les équipements et les sites de pratique. Avec une fréquence des canicules qui devrait doubler d'ici 2050 et une pratique sportive déconseillée au-dessus des 32 degrés, le rapport prévoit que les Français pourraient perdre entre 24 jours et 2 mois de pratique sportive dans un scénario à plus 2 et plus 4 degrés. Au-delà de l'activité, les sites et équipements sont également impactés. Exemple, entre un septième et un quart des clubs de voile sont menacés par la hausse du niveau de la mer en France pour des scénarios toujours compris entre plus 2 et plus 4 degrés. Les salles de sport, elles aussi, seront de plus en plus complexes à gérer avec des enjeux de confort thermique et de santé rarement pris en compte à l'époque de leur construction. De leur côté, les stades engazonnés deviennent de moins en moins exploitables avec des pelouses toujours plus perturbées et exposées au stress hydrique. Sans parler des sports d'hiver largement menacés, avec sur les 20 dernières années une épaisseur de neige en moyenne de 40% moins importante par rapport à la période précédente. La situation n'est donc pas réjouissante et malheureusement, il semblerait que le monde du sport soit encore, et comme beaucoup, dans le déni. Est-il vraiment cohérent d'épuiser les ressources en eau pour la pelouse d'un golf ou d'un terrain de foot, de produire des mètres et des mètres cubes de neige artificielle pour maintenir une compétition de ski, ou encore d'organiser des compétitions à l'autre bout du monde alors même que les conditions y sont inadaptées? Bref, le monde du sport a un défi de taille à relever pour mieux évaluer et intégrer l'impact des activités sportives sur l'environnement et inversement, mieux anticiper les conséquences du dérèglement climatique sur le sport, mais aussi pour éco-conditionner les financements ou encore affirmer la préservation de l'environnement comme valeur fondamentale et promouvoir les pratiques locales et de saison. Le chantier est colossal, mais après tout, le sport n'est-il pas le mieux placé pour relever tous les défis? La lutte contre le changement climatique en est un plus grand encore que toutes les performances sportives réunies, reste qu'à l'heure actuelle, il s'agit pourtant et encore du sport le plus méconnu de tous.
Merci et bravo. Et oui, effectivement, il va falloir tenir compte de toutes ces nouveaux changements climatiques. Et comme on est optimiste, eh ben, on va continuer en jouant. Vous pouvez jouer, tout le monde peut jouer dans la salle. C'est, alors d'habitude, on a un petit spécialiste du quiz, il n'est pas là. Mais que cela ne tienne, nous allons tenter de le remplacer avec Alain, avec un quiz qui mélange notre thème et les Jeux Olympiques. Alors, première question, attention. Les Jeux Olympiques de Paris vont permettre à 4 sports de faire leur entrée dans cette prestigieuse manifestation sportive. Pouvez-vous les nommer? 4 sports.
Le breakdance.
Oui, le breakdance.
Le breakdance, le surf.
Oui.
L'escalade.
Oui.
Alors moi, je sais plus.
Et
le skate.
Et le skate.
Eh bien, bravo.
Bravo, très bien. Alors, bonjour, Lafken. Toutes nos pensées vont vers toi qui nous manque beaucoup. Restons aux Jeux Olympiques. En 1900, la France obtient sa première médaille olympique en sport collectif avec le rugby, le polo, le football ou le handball?
Le rugby. Ah, le rugby. Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse. Eh bien, en 1900... Eh bien, nous avons battu nos adversaires favoris.
Notre adversaire favori, l'Angleterre.
Excuse-moi, je t'ai coupé un petit peu ta réponse.
28 à 7. Et les Français, de cette façon-là, n'ont pas pu entendre le jeu de mots favori des Anglais quand ils battent les Français. Good game, avec un grand sourire. Et avec un sourire encore plus grand, sorry.
Alors revenons sur nos terres normandes, à Lillebonne, avec la question suivante. François Briche et Élodie, alors j'ai oublié le nom de famille, bon moi c'est pas très grave, elle m'en voudra pas, ont ouvert une école de curling, de tchoukball, de catch ou de pelote basque.
C'est quoi le
Le tchoukball, c'est un sport avec 2 trampolines.
Ok.
Et sur lequel faut
lancer. Alors... Vous votez pour quoi?
Moi, j'aurais bien un pelote basque.
Eh bien, non, c'est le catch. Une école de catch a ouvert ses portes en février 2023 du côté de Lillebonne. Si jamais vous avez envie de faire un peu de catch, vous savez maintenant où aller.
Vous suivez la Seine jusqu'à Lillebonne. Alors, le Yuki Gassen est né au Japon. De quoi s'agit-il? Un art martial né au XVe siècle par les Shōi, moines soldats, une course de luge sur route qui a lieu à Yukigassen tous les ans le 15 août, ou une grande bataille de boules de neige.
Alors,
vas-y, tu peux bravo, le dire dans le ce sport est en réalité une énorme bataille de boules de neige. En effet, le Japon était le premier à instaurer les règles et à faire partie, compter... de ce nouveau sport. Chaque équipe compte 7 joueurs et ceux-ci doivent éviter de se faire éliminer par une boule de neige et demi. Cette activité prend place sur un terrain prévu à cet effet et il est possible pour chaque équipe de préparer 90 boules de neige à l'avance.
Alors,
quand il y a de la neige.
Oui, forcément. Dans quel sport les arbitres ne s'expriment qu'en français?
Le rugby?
Non. C'est un sport qui est au JO. où on rapporte...
L'escrime ?
Effectivement, c'est l'escrime. Il s'agit de l'escrime. La langue officielle de toutes les compétitions internationales d'escrime est le français et uniquement cette langue. D'ailleurs, les arbitres des autres pays doivent passer un examen dans la langue de Molière pour pouvoir arbitrer. Alors pourquoi les Français ont été les premiers à écrire des traités d'escrime dès le XIIe siècle? Et il y avait en France des donneurs de leçons qui enseignaient l'art de l'escrime à ceux qui devaient participer à un duel.
D'ailleurs, je dois dire qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de, d'avoir du plomb dans l'aile parce que l'anglais est en train de prendre de plus en plus... une des dernières choses qu'on faisait, qu'on annonçait en français commence à se faire manger progressivement par l'anglais. Donc c'est avec beaucoup de tristesse, mais c'est comme ça. Alors... Vrai ou faux, la pelote basque a-t-elle été une discipline olympique ?
Vrai.
Tout à fait. L'unique épreuve de pelote basque au JO s'est déroulée en 1900 à Paris. Seulement deux équipes y étaient inscrites. Attendez, vous commencez à rire avant qu'il faille rire. Le match n'a pas eu lieu. Mais le premier prix a été attribué à l'équipe espagnole. Ce sport fut également en démonstration au JO en 1924, 68 et 92.
Alors, question féministe. À partir de quelle année les femmes ont pu participer aux Jeux Olympiques ? Alors, je vais vous donner des possibilités. 1900, 1922, 1916 ou 1938 ?
38, je dirais. 38.
Non, ce n'est pas la réponse. Vous avez encore une chance.
1916 ?
Non. Du coup, pas...
Je ne me souviens 22. Plus des autres, du coup.
1900 ou 1922
22. Eh bien non, c'est en 1900.
Eh oui, mesdames, on vous a accepté dès 1900.
Ouais. Comme quoi, on n'était pas si rétrograde.
Avec quel sport aussi ?
Question médaille. Pour cette édition, les médailles des JO de Paris auront... dans leur constitution, une originalité française. Savez-vous de quoi il s'agit ?
Les bouts de la Tour Eiffel.
Exactement, des morceaux de la Tour Eiffel.
Une bonne réponse d'Élodie.
Chaque médaille olympique et chaque médaille paralympique est assortie d'un morceau de fer d'origine de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on repeint la Tour Eiffel, qu'on la répare, parce que le fer est un matériau qui rouille. Donc régulièrement, elle est entretenue. Et donc, on garde les morceaux qu'on a changés. Et pour les Jeux Olympiques à Paris, eh ben, on a broyé ces morceaux. Et dans chaque médaille, il y aura, je crois, aux alentours de 90 grammes de fer de la Tour Eiffel. Ce qui, s'il y a 90 grammes de fer et que c'est une médaille de bronze, d'argent ou d'or, pour vous dire le poids des médailles. Et qui seront, un scoop pour finir, frappé à Paris par la monnaie de Paris.
Donc voilà, eh bien, je pense que nous arrivons au terme de ce quiz. Merci d'avoir participé avec brio. Et donc, nous arrivons au terme de cette émission. C'était la 60e de Bonjour Turbine. Merci à nos invités, Élodie, Adrien de l'ASPTT Caen Korfball. Korfball, les deux sont bons ?
Oui.
Bon, bah alors c'est bon. À Pascal du club de Caen de Systema. Eh bien, je vais en profiter aussi pour faire un petit coucou à notre auditeur qui est... dans sa campagne à Brice-en-Coglès, notre ami Sylvain. Et puis, puisque nous sommes sur les terrains du WIP, qui était le WIP encore l'an dernier, eh bien, je passe un petit bonjour à toute l'équipe du WIP qui est maintenant un petit peu partout en France et sur Caen. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, notre comité de rédaction était composé de Floriane. Marion était à la technique. Alain et moi, nous avons pris plaisir à animer. Et nous vous remercions de votre venue. En attendant la prochaine émission de Bonjour Turbine, vous pouvez retrouver cette émission sur Station Blé, les audioblogs d'Arte, Spotify et Deezer. Et merci et bonne soirée à tous. Si, il y a juste un autre petit truc que je vous laisse c'est que nous allons mettre les liens des associations dont on a parlé durant l'émission.
Une petite chose à dire juste avant, c'est que c'était un super kiff de retrouver notre studio. Parce que ça faisait depuis le mois de juin l'année dernière que nous errions à droite et à gauche. Et là, on a retrouvé le site historique. Ouais, yes.